Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, nous nous dirigeons non pas vers un pays, mais vers le ciel. Ce ciel bleu, résolument bleu, qui a été le gage de l'année 2020, l'une des plus chaudes jamais enregistrées au Maroc. C'est une information qui est livrée par la Direction générale de la météo dans le Royaume du Maroc, plus 1,4% sur la moyenne annuelle. C'est absolument gigantesque. Le mois de février a été extrêmement sec et la campagne agricole, sur la tranche 2019-2020, a connu un déficit de pluviométrie qui s'est élevé à moins 33%. C'est un chiffre tout à fait conséquent et qui a, hélas, impacté la production agricole. Et on a à peu près le même diagnostic en Algérie, puisque le pays a connu un déficit de pluviométrie compris entre 20 et 30% au cours, cette fois-ci, des trois dernières années, ce qui rend, selon les Algériens, la solution du dessalement de l'eau de mer comme étant une solution d'urgence, en tout cas incontournable. C'est ce que dit le ministre de la ressource en eau. Côté marocain, l'option qui a été retenue est celle de ces grands lacs, de ces grands barrages qui permettent d'avoir un flux continu dans les robinets, de ne pas avoir de coupure d'eau. C'est en tout cas l'option qui a été choisie par le Royaume du Maroc. En Algérie toujours, le visage de la contestation sociale, c'est celui d'Abderrahman Zaoui, un employé de poste Algérie, un homme inconnu jusqu'à ce qu'il ait un échange très vif avec le ministre algérien de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar. Cet échange a été filmé en vidéo, puis mis à disposition sur les réseaux sociaux. Une vidéo très virale qui montre l'incapacité à établir un dialogue sain et apaisé entre Abderrahman Zaoui, représentant, va-t-on dire, des employés de l'Algérie Poste, et puis l'autorité gouvernementale incarnée par Brahim Boumzar. Et ce qui était à craindre est arrivé. Zaoui a été remercié de ses fonctions. Il n'appartient plus à Algérie Poste suite à cet échange qu'il a eu avec le ministre. Pour conserver son poste, il lui aurait suffi de se taire. Peut-être un nouveau parti politique en Mauritanie. Le dossier a été déposé au ministère de l'Intérieur, comme il est de coutume dans tous les pays, à savoir se présenter ainsi devant l'autorité du ministère. Et voilà, c'est un parti qui devrait s'appeler le RDP, qui est constitué essentiellement de transfuges et de dissidents de l'UFP, l'Union des Forces du Progrès. Attendons de voir quel sera le sort réservé par le ministère de l'Intérieur à cette nouvelle formation politique. En Mauritanie toujours, l'ancien président Ould Abdelaziz est convoqué aujourd'hui même devant le pôle judiciaire qui enquête sur la gestion de ses deniers publics lorsqu'il était président. Aujourd'hui, les questions portent spécifiquement sur ce point. Comment a-t-il géré l'argent public alors qu'il était président ? Parlons d'argent, parlons de la Libye, avec la commission des finances de la Chambre des députés qui a commencé à travailler sur le projet de budget national 2021. Alors sans entrer dans les détails, il est tout de même intéressant de noter que au jour d'aujourd'hui, indépendamment des directions budgétaires qui seront prises, les ressources de l'État libyen sont véritablement très monolithiques. La principale source de revenus, c'est le secteur pétrolier et gazier, 89 milliards de budget prévisionnel, donc 89 milliards de dollars de recettes contre seulement 4 milliards provenant des impôts et de revenus qui ne sont pas liés au pétrole. Et pendant que le budget libyen est en cours d'élaboration sur le volet sécuritaire, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, demande à ce que son pays reprenne sa coopération militaire avec la Libye. une coopération qu'il veut à grande échelle. On ne peut pas s'empêcher de lire cette déclaration du ministre russe en transparence de la visite qu'il y a eu la semaine dernière du premier ministre libyen qui lui était en Turquie avec tous ses accords de coopération, dont certains des accords militaires sur le secteur sous-marinier qui ont été signés. Le ministre demande à ce qu'il y ait un rapprochement significatif entre Moscou et Tripoli pour faire vivre ce qu'était autrefois la coopération militaire entre les deux pays. A signaler également le décès du président tchadien à peine réélu. Il vient de décéder des suites de ses blessures. Il s'est engagé sur le front, c'était ce week-end. Il a combattu une colonne de rebelles qui tentait un coup d'État. Il est décédé des suites de ses blessures. Son fils prend le relais le temps que le pays aille à des élections qui sont prévues d'ici 18 mois. Et puis la Russie, toujours très active en Syrie, où des bombardements aériens ont été fatals à plus de 220 terroristes. C'était une base d'entraînement à proximité de la ville de Palmyre. Ce bilan est rendu officiellement par le ministère russe de la Défense. Attaque, combat, guerre. Partons maintenant à la rencontre d'un homme, Louis Saillant. Son nom n'est pas connu et pour cause, c'est un soldat français qui d'ailleurs est toujours d'actif. Il a fait partie de ces troupes qui combattent sur l'axe sahélo-saharien et qui montent au contact de groupes terroristes, groupes armés qui opèrent depuis le Mali, le Niger, le Tchad. Cet axe éminemment risqué, ce qui fait que son témoignage, il vient de publier un livre qui s'appelle « Chef de guerre », son témoignage est assez unique, alors pas tant sur le factuel que sur le ressenti qui est le sien de la situation conflictuelle et voir comment cela peut être vécu quand on est soldat et que l'on est engagé face à ce type d'adversaire qui pratique la violence du sacré. Louis Saillant, bonjour. D'abord, merci d'être là parmi nous dans ces colères du monde. Si je vous dis Afrique, vous qui avez passé tant de temps, vous qui avez vécu tant de moments difficiles compte tenu de la dureté de la guerre, le mot Afrique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il évoque pour vous ?
Dès qu'on me parle d'Afrique, j'ai une phrase qui me revient systématiquement, qui est la phrase qui dit que le sang africain a tellement coulé que la terre aujourd'hui en Afrique est rouge. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est vrai que chaque fois que je vois cette terre rouge, en fait, c'est un souvenir très fort, très prégnant qui me revient. Et je repense à tous les conflits que j'ai pu connaître là-bas, mais que beaucoup de pays africains ont pu connaître et connaissent encore malheureusement aujourd'hui.
Mais c'est une phrase que vous aviez entendue dans quel contexte ? C'est un ami ? C'est une relation ?
Non,
c'est en mission ?
Non, ça, c'était pas... je crois que ça vient d'un film. Je crois que ça vient du film de Blood Diamonds avec Leonardo DiCaprio, où en fait il parle des passeurs de diamants au Libéria pendant la guerre civile. Et du coup, c'est une phrase qui ressort, mais... et que je me suis un peu approprié parce que j'ai rencontré cette terre rouge un peu partout en Afrique.
Et vous vous y sentiez bien, vous vous sentiez en harmonie avec la mission qui était la vôtre, qui est une mission âpre, hein, qui est celle de neutraliser des individus qui pratiquent la violence du sacré. Vous y étiez en paix avec vous-même ?
Ah oui, j'étais en paix, tout à fait en paix avec moi-même, sachant que l'accueil qu'on a et le contact qu'on a avec les... À chaque fois, les différentes ethnies et différentes populations sont toujours très bons. On a toujours une très bonne relation avec eux. Et ça me confortait toujours dans le travail que l'on y faisait. Beaucoup s'appuyaient sur nous, sur notre travail pour finalement sécuriser une grande partie de leur habitat. Hein. Certains n'avaient plus confiance soit dans leurs armées, dans leur police, qui parfois étaient inexistantes. Quand on parle du Sahel, c'est quand même une région qui est immense. Hein. Vous imaginez une région qui fait... la taille de l'Europe, ça fait de la pointe bretonne jusqu'à Moscou. Donc c'est immense. Et parfois, dans ces zones-là, il y a des zones très reculées où effectivement, il n'y a plus de police, plus rien. Et les gens sont un peu... ne comptent plus que sur eux-mêmes. Et on est les seuls à les voir et à essayer de rétablir un petit peu de justice avec nos petits moyens.
Est-ce que lorsqu'on mène un combat aussi difficile que celui qui a été le vôtre, est-ce qu'on arrive à conserver une part d'humanité et à ne pas renoncer à soi-même ?
Je pense que beaucoup de nos conflits ont été marqués par les traumatismes de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. C'est un conflit qui reste. c'est un conflit qui reste et qui a beaucoup marqué par les boucheries que cela a été. Et il faut reconnaître que ça a été des vraies boucheries avec des millions de vies humaines qui ont été déversées dans ces brasiers ardents. Mais je pense qu'il faut retrouver aujourd'hui aussi les combats antérieurs à ces conflits-là, qui étaient des combats nobles, qui étaient des combats où il y avait une grande dignité et qui étaient des combats justes. Et c'est ce à quoi je fais référence lorsque nous, nous allons sur le terrain, parce que bien qu'il y ait des décisions qui sont prises, qui sont généralement des décisions qui sont bienveillantes, bienfaisantes, parfois il peut y avoir des motivations questionnables, effectivement, je peux comprendre. Néanmoins, quand on est sur le terrain, c'est nous qui sommes sur le terrain, comme vous disiez, et c'est une relation presque intime que l'on a avec la population et l'ennemi. Et c'est ça, c'est là où on retrouve la légitimité de nos combats. C'est-à-dire que quand on y va et que on poursuit des gens qui ont des pratiques barbares, on est ravis, en fait, de pouvoir arrêter ces gens-là. Et au même titre, on est ravis de pouvoir apporter un petit peu de paix aux populations locales. On est au contact avec des populations qui sont, pour certaines, des populations du tiers-monde, extrêmement pauvres, dans des lieux extrêmement reculés, et qui ont un besoin vital de non seulement de sécurité, mais aussi d'élever leur niveau de vie, leur éducation, d'avoir accès à l'eau potable, d'avoir accès à l'électricité, des choses qui nous semblent élémentaires et que ces gens-là n'ont pas. Et donc tant qu'on n'aura pas stabilisé tout ça, alors pour ça il y a tout un travail à faire, je pense, notamment en coordination avec les populations locales. Mais malheureusement, je crains qu'aujourd'hui, les façons dont cela est fait ne soient pas adaptées.
Merci Louis Saillant d'avoir été avec nous dans Les Colères du Monde. On peut citer donc votre ouvrage, cela s'appelle Chef de guerre et cela vient de sortir aux éditions Mareuil. Voilà, c'était Les Colères du Monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.